Mercredi dernier avait lieu pour la quatrième année consécutive une nouvelle édition de Lire au Sud. Ce rendez-vous familial et festif s'est déroulé à la bibliothèque Ronville du centre social Torchy de 10h à 17h et proposer à ses lecteurs de découvrir auteurs, illustrateurs et conteurs pour la jeunesse tout en assistant à de nombreuses animations. Pour nous résumer en détail cette journée, j'ai rencontré Laurent Villard, directeur de la médiathèque d'Arras.
Lire au Sud, c'est la quatrième édition cette année. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire venir dans les quartiers sud d'Arras des auteurs pour que les enfants puissent les rencontrer d'abord dans le cadre de l'école, dans leur classe. Ils ont travaillé depuis le début de l'année sur les textes de ces auteurs pour notre année. Et là, la rencontre, en fait, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau puisqu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils ont envie, discuter, les rencontrer. Et puis, le mercredi, on a un temps un peu festif dans la bibliothèque pour pouvoir leur permettre aussi aux parents de venir rencontrer les auteurs qui sont allés dans les classes des enfants. Donc voilà le principe de Lire au Sud. Donc depuis ce matin, dans la bibliothèque, les auteurs sont là, ils sont en dédicace, il y a des spectacles, il y a des animations. On a travaillé autour de l'idée de faire construire aux enfants, avec le jeu Capla, qui sont des petites barrettes de bois, la ville de demain. Donc ils sont en train de travailler sur la ville de demain, on a des spectacles de marionnettes. Et on essaye comme ça tous les ans de faire cette édition de 3 jours autour du livre, pour que les habitants des quartiers sud puissent rencontrer des auteurs, des écrivains pour la jeunesse, et découvrir le livre au travers de ces écrivains.
Ces livres et ces écrivains que vous invitez, c'est vous qui les invitez, ils sont choisis, ou alors c'est eux qui finalement vous proposent ?
Non, c'est vraiment des rencontres entre Catherine, donc, qui est responsable de la bibliothèque Ronville, et puis ses écrivains. Elle les rencontre dans des salons les années précédentes. Et puis c'est elle qui prend les contacts, c'est elle qui choisit les écrivains qu'elle veut faire venir sur le quartier. Et c'est elle qui organise avec ses écrivains leur venue, les rencontres, les niveaux dans lesquels ils souhaitent aller de classe. Il y a des écrivains comme Malika Doré qui vont plutôt aller dans des écoles maternelles. Et Hubert Benkemoun qui est là est plutôt allé dans les collèges. Donc c'est elle qui organise pour aussi pouvoir plaire à tous les enseignants qui se sont investis avec nous sur ce projet toute l'année. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les enfants qui sont là, ils sont venus rencontrer l'écrivain qu'ils ont vu dans leur classe. Donc l'idée de faire intervenir l'auteur plutôt pour montrer qui est la personne qui se cache derrière les livres, ça a créé une relation particulière. Vous dire qu'après ils seront complètement conquis par la lecture, je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est une des idées qu'on a aujourd'hui pour les intéresser à la lecture. Et pour moi, la lecture, c'est aussi bien la lecture sur livre que la lecture sur tablette ou la lecture aujourd'hui numérique. Le principal, c'est de lire. C'est ce qui est vraiment important.
Et vous avez déjà des idées pour une 5e édition ?
Alors, on a déjà des pistes pour une 5e édition. Voilà, maintenant, il va falloir aussi qu'on regarde un petit peu comment les choses se passent aujourd'hui. On se rend compte que les lieux sont un peu justes par rapport à l'affluence qu'il y a. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à comment encore mieux aller voir d'autres partenaires dans le quartier pour essayer peut-être de délocaliser certaines animations pour que ce soit encore plus un événement dans le quartier et pas uniquement sur le centre social.
Parmi les nombreuses animations proposées, ce fameux jeu de construction Capla dont parlait Laurent Villard avait pour thème « À quoi ressemblerait la ville d'Arras en 2050 ?» Discussion avec des élèves de 3e qui ont réalisé ce projet et Samir, leur contremaître. Et vous allez entendre que les élèves ont un avis assez cocasse sur la cohabitation entre les générations.
Adrien, Valentin.
Odeline.
Alors, expliquez-moi un peu votre projet.
Au début, on nous a proposé de faire Arras en 2050. Donc, pendant la première heure, on avait réparti en plusieurs groupes d'activités ce qu'on allait faire. Donc, on ne savait pas trop bien ce que les autres y faisaient, mais on allait voir dans les autres activités et on s'est adapté par rapport aux autres.
Alors, à quoi ça ressemble donc
On a coupé un peu le monde des jeunes et le monde des personnes âgées.
Ah, couper, c'est-à-dire. T'as séparé les vieux des jeunes, c'est ça?
Un petit peu. Ils ont un espace privilégié, un genre d'homme.
Par exemple, on a, bah, pour les personnes âgées, on les a enfermés dans un... Enfin, enfermés.
Enfermés.
Comment dire, abrités, mis à l'écart de la ville dans un cône, en fait. Un dôme à l'origine, mais dans un cône. Donc, bah, ils ont différents services comme les hôpitaux, des magasins, un cinéma, des restaurants, des bâtiments, des maisons, tout ça, voilà.
Alors, pourquoi les avoir séparés? On pouvait pas les faire vivre tous ensemble?
Bah, le cône est encore ouvert, donc tout le monde peut y accéder facilement. Mais bah, au début, on avait lancé une idée comme ça, un dôme. Et puis bah, finalement, ça finit par être notre projet et on l'a fait comme ça.
C'est logique de séparer les vieux des jeunes?
Bah, ça prend moins de place. niveau... Non mais pour les hôpitaux, niveau hôpitaux, tout ça, pour qu'ils aient un peu de liberté par rapport aux jeunes, tout ça, je sais pas comment dire exactement.
Alors c'est plus donc pour les protéger alors finalement.
Ouais c'est ça.
Ça rattrape bien. Alors, et au niveau de l'infrastructure, alors comment vous voyez ces choses? Parce que là, vous avez fait, évidemment, c'est du carton, du polystyrène et d'autres matériaux, mais vous avez visualisé Arras en 2050 dans votre tête avant?
Bah, au début, non, parce que c'était un peu difficile d'imaginer Arras en 2050. Comme c'est dans 40 ans, c'est un peu compliqué, donc on ne savait pas par quoi commencer. Comment ils seront les bâtiments plus tard, comment ils seront les commerces, les moyens de locomotion, tout ça, c'était un peu difficile. Hein.
Alors les moyens de locomotion justement, ça ressemble à quoi? Parce que là je vois qu'il y a c'est des téléphériques, donc en fait il n'y a plus de voitures.
Il y a moins de voitures, moins de pollution, tout ça, plus de... les gens marchent plus, il y a plus de liberté, il y a moins... Comment expliquer?
Quand vous avez commencé à travailler sur ce projet, bon, c'est sûr qu'en 2050, c'est pas tout près, c'est pas si loin que ça non plus. Qu'est-ce que vous avez voulu rendre, on va dire, dans la maquette en premier? Est-ce que c'est l'absence de pollution, une nouvelle écologie peut-être?
Bah oui, parce que y a beaucoup de jardins autour de jardins puis de bois autour de la ville.
On était tous d'accord sur un point, c'était garder les deux places et le beffroi, et c'est ce qu'on a fait. Après, je trouve que la ville est assez ouverte, et c'est bien comme ça. Mais on a préféré éviter les moyens de locomotion, comme les voitures qui polluent. C'est pour ça qu'on a fait des cabines qui peuvent nous téléporter.
Très bien. Et par contre, vous n'avez pas du tout touché au beffroi, à la mairie, et ils sont toujours pareils, hein. Ils n'ont pas changé, hein. Ils sont pas modernisés par contre.
Comme les pavés, on va les garder aussi, c'est un symbole d'Arras, bien sûr.
Puis, Arras sans ça, c'est plus Arras. Ah non, voilà, c'est tout.
Vous allez garder les andouillettes aussi, non? À votre avis, ça sera quoi la bouffe en 2050?
Ça, par contre, on n'y avait pas pensé.
Ah.
En ville, souvent, moi, je de la restauration rapide, tout ça, mais en 2050, on n'y avait pas pensé. Par contre, niveau alimentaire.
Ça va être des restaurations.
Ouais, des restaurations rapides, sûrement. Peut-être restaurants bio aussi, peut-être en 2050. Et c'est tout, je pense.
Alors, question piège, dans 2050, vous aurez quel âge, vous?
55 ans.
Donc, vous serez dans le dôme?
Ouais, voilà, exactement.
C'est bien ça. C'est bien,
ah oui,
ça,
on l'a prévu pour nous quand même.
Vous l'avez prévu pour nous?
Ouais, voilà, exactement.
Quelques mots d'ailleurs, Samir. T'as travaillé avec eux sur ce projet-là ou...
Ouais, voilà, en fait, j'ai... Donc on a bossé avec... En fait, c'est un projet qui était monté, qui était mis en place avec la médiathèque Ronville, le musée des Beaux-Arts et donc le collège Mitterrand, donc là, avec les trois amis avec qui t'as pu discuter. Donc voilà, en fait, l'idée, voilà, quoi, c'est de créer, en fait, de leur faire imaginer le Arras en 2050, quoi. Qu'est-ce que c'est pour eux, quoi? Et bon, c'était rigolo, quoi. C'était du pain et des jeux, quoi. C'était voilà, quoi. Des choses très rapides, quoi. Des commerces, des salles de jeux en réseau. Enfin, voilà. Moi, je les ai poussés un petit peu plus sur l'idée, justement, de l'écologie aussi, hein. Enfin, les sensibiliser là-dessus, quoi. Donc, créer des écoquartiers, etc. Enfin, qu'est-ce que ça peut être, un écoquartier? Revoir aussi les écoles. Et puis voilà, tout en gardant justement, comme ils ont dit tout à l'heure, en fait, en gardant aussi les places, hein, pour bien montrer voilà, qu'on est à Arras. Donc ils gardent les places comme ça, le beffroi, la petite place, la grande place, puis après bah, recréer en fait toute une ville. Quoi, je leur parlais d'utopie, bon voilà quoi. Voilà leur cité utopique. Il fallait quand même les pousser un peu hein, pour qu'ils aient une réflexion là-dessus, parce que sinon c'était vraiment une ville de jeu. Pas de circulation, pas d'hôpitaux, pas de police, pas de rien, c'est vraiment, ils pensaient qu'à eux quoi. Et donc voilà, en fait moi je les ai poussés justement un petit peu sur le signe de circulation aussi de la ville, hein, réfléchir un petit peu à on parlait de voitures, enfin, de toute façon il faut des voitures pour circuler, pour faire des comptes, etc. quoi. Donc en fait ils ont plus parti sur l'idée de faire des chemins comme ça, destinés en fait aux cyclistes, aux piétons, hein, qui baladent comme ça dans toute la ville, et puis cette idée aussi de cabine, là, de téléportation, voilà. Hein, voilà.
Les auteurs étaient plutôt ravis de leur venue à la bibliothèque Ronville. Éric Simard, auteur de nombreux livres pour enfants qui évoquent la paix, les luttes contre les injustices et les droits de l'homme, nous explique pourquoi il aime rencontrer son jeune public et nous détaille ses thèmes de prédilection.
La raison pour laquelle j'accepte ces rencontres scolaires, puisqu'il y a eu des rencontres scolaires jeudi, vendredi, lundi, mardi, et aujourd'hui en dédicace le mercredi, c'est justement parce que ça permet aux enfants de mettre un visage sur des livres et de rendre accessible aussi le contenu des livres à travers la parole de l'auteur. Et moi, à leur âge, je pense que j'aurais sauté de joie si j'avais pu faire ça. Donc c'est quelque chose que je transmets avec grand plaisir. Et voilà, c'est décuplé par les enfants qui sont heureux. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve.
Alors, vous abordez des thèmes particuliers dans vos livres. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ?
Oui, j'ai publié un certain nombre de livres dans plusieurs genres, le fantastique, la science-fiction, l'historique. Dans le domaine historique, j'ai surtout exploré ceux qui ont agi pour l'amélioration des libertés, du respect de l'homme, de la femme. Et il y a essentiellement deux livres que je dédicace en ce moment. C'est La vie de Rosa Parks, la femme noire qui a refusé de se lever dans un bus pour céder sa place à un homme blanc en 1955, et qui a déclenché ensuite le mouvement de boycott des Noirs aux États-Unis, en Alabama, et qui a été soutenue par Martin Luther King, qui est devenu célèbre à la suite de ça. Donc la vie de Martin Luther King, La vie de Rosa Parks, adaptée pour les enfants, donc ça fait partie du vivre ensemble, accepter la différence, réfléchir sur la tolérance, sur le sens du mot, et c'est voilà, c'est aussi l'action du livre que de faire réfléchir, pas seulement faire rêver mais aussi faire réfléchir. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis là.
Quel retour ont-ils ces enfants? Est-ce que vous discutez un peu avec eux de ces thèmes et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Sur ce thème-là, du rejet, de la tolérance, du respect, oui. Le but dans ces rencontres, c'est qu'ils apportent eux-mêmes parce qu'ils ont déjà même à 9, 10, 11 ans, 12 ans, parfois des expériences qui ne sont pas très heureuses. De pouvoir comme ça libérer la parole, ça arrive parfois. Mais la plupart du temps, c'est qu'ils entendent de la part de quelqu'un, d'un intervenant extérieur qui est écrivain, qui est auteur, qu'ils entendent à quel point c'est important aujourd'hui de vivre en respectant celui qui est à côté, de vivre en l'écoutant, en acceptant qu'il soit différent, et ça on leur répète pas assez. Donc il se trouve que la parole de l'auteur a une certaine valeur pour eux suite à la lecture de ses livres et tout ça, donc moi j'enfonce le clou autour du thème, et ils sont hyper réceptifs là-dessus. La notion d'injustice est quelque chose ils sont ultra sensibles sur ce plan-là, donc voilà, on est vraiment dans la bonne fréquence.
Un mini-concert avait également lieu ce jour-là en compagnie d'une chorale de jeunes chanteurs, élèves de CM1 de l'école Pierre Curie sous la direction de Pierre-Alexis Cabiran, leur professeur, mais aussi membres du groupe Les Buddies Cats, qui avaient également donné la veille un concert sur la route du blues autour d'une expo consacrée à Martin Luther King. Quelques élèves m'ont accordé une petite interview, avec en bonus un extrait d'une chanson improvisée de fort belle manière. Leur professeur, quant à lui, nous explique pourquoi et comment il a travaillé ses chants avec ses élèves.
Alice, Margot,
Manon,
Mélina,
Margot.
Est-ce que vous pouvez me dire le thème des chansons qui étaient abordées, que vous avez chantées ?
Il y en a un qui que ça parle des gens qui sont du 15e siècle et ils se battent et ils vont boire tous les vins qui sont à Bonn.
C'est difficile de travailler des chansons comme ça quand vous les connaissez pas ?
Des fois,
un peu quand même.
Quand c'est pas notre langue, c'est un peu difficile, mais quand c'est notre langue, ça va, c'est plus facile.
Alors qu'est-ce qu'il y avait comme langue ?
Français,
espagnol,
anglais, mexicain.
Non, c'est bon.
Alors qu'est-ce qui est difficile quand on parle pas la langue ? C'est quoi qui est difficile ? C'est l'accent ? C'est les mots ?
Les mots.
Il y a des mots durs, faciles et tout.
Mais l'anglais, vous connaissez quand même un peu.
Ah bah oui.
Vous chantez des chansons en anglais quand même.
Bah oui.
Alors, quel genre de chansons vous chantez en anglais ?
Les chansons, quand on a chanté...
Que monsieur nous apprend.
Et donc, vous avez travaillé ces chansons en combien de temps alors ?
Du début de l'année jusqu'à maintenant.
Et est-ce que vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui joue de la guitare et des instruments avant ? Alors, est-ce que c'est difficile ?
Non. Il y a des moments oui, il y a des moments non.
C'est quels moments sont difficiles alors ?
En espagnol, quand tu peux suivre la guitare.
Quelqu'un veut peut-être me chanter quelque chose ?
Moi, c'est ma langue, je peux chanter quelque chose, mais c'est ma langue à moi.
Et laquelle ?
C'est Zaz.
Vas-y.
Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Papala, papala.
Merci beaucoup.
Depuis un certain temps, on est tenu de faire un apprentissage d'une langue vivante, donc notamment l'anglais. Moi, je le fais dans ma classe. Et en fait, je profite aussi de ce moment-là pour pouvoir travailler des chansons en langue étrangère. Ça fait travailler tout ce qui est la sonorité, l'accentuation. Ça donne aussi l'habitude de pouvoir manipuler la langue. Ça fait travailler la mémoire. Enfin, le chant, c'est excellent. Puis surtout, ça libère les élèves de leur tension. L'idée, c'était aussi, puisque je suis en charge de leur faire une initiation à l'histoire de la musique, d'avoir des choses très très éclectiques. Donc en fait, on a fait Gréveillé ou Picard, qui était un chant militaire du 15e siècle, mais qui parle de la région. On a fait une chanson du folklore américain, You Are My Sunshine. Et on avait travaillé aussi sur l'histoire de l'esclavage et sur le blues, parce que Eric Simard, qui est un auteur qui a fait de nombreux livres sur Martin Luther King et Rosa Parks, est venu dans notre classe dans le cadre de Lire au Sud. Donc on a appris un work song qui était vraiment la base du blues, c'est-à-dire le chant que chantaient les esclaves, puis après les prisonniers dans les pénitenciers quand ils posaient des rails de chemin de fer ou quand ils ramassaient du coton. Et on a fait un grand classique du blues, Sweet Home Chicago.
Est-ce que vous les sensibilisez aussi à ce qui s'est passé historiquement parlant en travaillant ces chansons ?
Alors justement, la traite négrière fait partie du programme d'histoire. Le but est d'essayer de mettre toutes ces matières en connexion, histoire, géographie, anglais, musique, pour que tout ce qu'on fasse ait du sens dans leur apprentissage.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile alors avec les élèves de travailler ce genre de chansons ?
En fait, ça a l'air, au début, quand ça m'arrive des fois de leur chanter la chanson au début en entier, ils se disent oh, « on va pas y arriver ». Et en fait, c'est beaucoup de jeux, de réponses, de répétitions énormes en classe. Et s'apercevoir aussi que la musique ou la chanson, c'est souvent comme de la pâtisserie ou de la cuisine, il faut laisser reposer. Et on est des fois très surpris, un petit quart d'heure tous les jours, ou même 5 petites minutes, en laissant bien reposer et en reprenant le lendemain ou 2-3 jours après, y a énormément de choses qui sont restées. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine.
Vous faites aussi partie des Buddies.
Le groupe s'appelle les Buddies Cats, les chats de Buddy, et donc on est un trio de blues avec François-Xavier Letrot à la guitare, René Leroy à la batterie, moi je fais de la basse et du chant, et donc on explore pareil, l'immense diversité du blues. On le prend vraiment comme une musique traditionnelle, avec à la base un chant, une poésie accompagnée. Et donc, quand on gratte bien dans l'histoire du blues, on s'aperçoit que pour un titre, il y a des centaines et des centaines de variantes. Donc on essaye un peu d'explorer toutes ces voies-là.
Et vous avez joué d'ailleurs dans cette nouvelle édition de l'Hiro Sud 2012.
Alors oui, on a fait un concert hier soir devant un public qui était assez nombreux et très familial, ce qui nous plaît beaucoup. Donc on a fait un concert, pareil, en essayant d'expliquer un peu la signification des chansons, leur origine, etc.
On termine ce sujet en musique, en compagnie des élèves de CM1 de l'école Pierre Curie, que vous avez d'ailleurs pu entendre tout au long de ce reportage. Ils nous interprètent le titre...